en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Devant les académiciens réunis en séance, le lundi 12 mars 2012 à l'Académie des sciences morales et politiques, l'économiste du climat, Christian de Pertuis, a proposé d'une part de passer en revue les diverses modifications climatiques observées, ce que nous savons, puis il a envisagé diverses manières de conduire l'action, s'adapter, innover, agir. De son point de vue, les incidences du changement climatique sur l'économie pourraient devenir un formidable levier pour la croissance et nous aider à sortir de la crise, entrer grâce à Canal Academy dans la salle des séances.
Notre séance elle-même, qui porte aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique. C'est la dernière de nos séances que nous consacrerons principalement à l'effet de l'état des ressources naturelles sur les développements dans le monde ou sur la situation économique mondiale. J'ai pensé qu'il était inutile de demander une communication sur le changement climatique lui-même, puisque nous savons tous que les scientifiques sont extraordinairement divisés sur ce point. On possède d'ailleurs les rapports que l'Académie des sciences a publiés en 2010. En revanche, il me paraissait plus utile d'avoir une mise au point sur la manière dont les acteurs politiques et les acteurs économiques réagissent concrètement aux problèmes du changement climatique, quelles politiques sont mises en œuvre, quels mécanismes sont élaborés pour y faire face. On connaît bien sûr le marché du carbone. On connaît aussi le plan français qui a été publié en juillet 2011, mais enfin, il y a d'autres éléments et les différents pays ont dans ce domaine adopté des politiques différentes. J'ai donc demandé à M. Christian de Pertuis, dont c'est une des spécialités, de nous faire un exposé sur ce point. M. de Pertuis est économiste de formation. Il a commencé sa carrière dans le domaine agricole, auprès des chambres d'agriculture, et c'est plutôt à la Caisse des dépôts et consignations qu'il s'est orienté vers l'étude de l'économie du climat. Il a enseigné au CNAM et à l'université Stanford aux États-Unis. Il est aujourd'hui professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine et il est le directeur scientifique de la chaire d'économie du climat qui a été mise en place dans cette université conjointement par la filiale de la Caisse des dépôts dédiée à la lutte contre le changement climatique, ce qu'on appelle CDC Climat, et l'Université Dauphine. Et cette chaire a pour fonction de mettre en œuvre un programme de recherche et de formation qui concerne aussi bien les étudiants d'ailleurs que les dirigeants d'entreprise, dans le domaine de l'économie du climat et la croissance verte. Monsieur de Pertuis est également membre du Conseil économique pour le développement durable. Il est l'auteur de très nombreux livres. Je cite très simplement son livre « Le développement durable » publié en 2005 chez Nathan et qui a eu une deuxième édition en 2011. Son ouvrage « Économie de l'adaptation au changement climatique » paru à la Documentation française en 2010. Son manuel pour les industriels intitulé « Le prix du carbone » publié en 2010. Un livre intitulé « Economic Choices in a Warming World » et qui a été publié à Cambridge en 2011. Et puis vient de sortir chez un éditeur qui a un nom merveilleux, le Cavalier Bleu, un ouvrage intitulé « Et si le changement climatique nous aidait à sortir de la crise ?» Il sort peut-être aujourd'hui. Monsieur de Pertuis a eu l'amabilité de me l'apporter. Monsieur, nous vous laissons la parole et nous vous écouterons avec plaisir.
Bien, merci Madame la Présidente. Merci à vous tous de m'accueillir dans ces lieux et c'est bien volontiers que j'adopte les usages vestimentaires de vos groupes. Il me semble que la façon la plus simple de poser peut-être les enjeux économiques sur le climat est de procéder en deux temps. Un premier temps qui est de rappeler un peu les enjeux à partir du diagnostic de ce que nous savons du changement climatique, de ses implications, et puis dans un deuxième temps, d'examiner comment nous pouvons conduire l'action. J'ai été extrêmement attentif à la présentation de mon voisin de droite sur la comparaison entre la France et l'Allemagne, et je voudrais juste en introduction vous faire part d'un retour d'expérience. Il se trouve que j'ai présidé à l'automne dernier, pour le compte de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, un groupe de travail sur trajectoire vers une économie bas carbone 2050. Et dans le cadre de ces travaux du groupe, nous avons auditionné nos amis allemands. Et je peux vous assurer que les dirigeants de la politique énergie-climat en Allemagne ont parfaitement intégré que la perspective d'action contre le changement climatique était un levier extraordinaire de construction d'une nouvelle économie de l'énergie basée sur des systèmes nouveaux de réseaux de production et de consommation d'énergie et qu'ils vont dans la stratégie énergie-climat avec toute une gamme de politiques associées, politiques industrielles, politiques de R&D. Et je pense que ce que nous avons voulu écrire dans ce petit essai « Et si le changement climatique nous aidait à sortir de la crise » est tout à fait dans ce sens-là. Vous êtes frappé avec moi du fait que dans le débat public aujourd'hui, le changement climatique a complètement disparu. Il suffit de regarder n'importe quel débat dans les perspectives qui s'annoncent pour les prochains mois. Exit le changement climatique, exit l'écologie. Et je pense qu'il y a au fond une représentation dominante dans les milieux de la décision politique ou de la décision économique qui est la suivante. Cette vision, c'est de dire, à court terme, il y a tellement de contraintes et de problèmes économiques à régler qu'il faut commencer par régler les problèmes économiques et ensuite on passera au changement climatique. Ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion qui vous conduise à vous poser cette question. Est-ce que, en réalité, intégrer le changement climatique dans la prise de décision économique et dans la politique publique ne serait pas peut-être l'un des leviers possibles de reprise économique, de reprise industrielle, de reconstruction de systèmes nouveaux qui génèrent de l'investissement, de la croissance et de l'emploi. Alors, pour introduire cette réflexion, je commencerai rapidement par rappeler les enjeux. Pour un économiste, vous avez rappelé tout à l'heure les questions de l'incertitude scientifique, il faut évidemment partir de ce que nous savons du changement climatique et donc il faut se mettre en écoute de ce que nous dit la communauté des sciences du climat sur le phénomène. Je pense que dans cet exercice extrêmement important d'écoute de la communauté scientifique, il faut clairement distinguer ce qui est du domaine des faits d'observation et ce qui est du domaine de l'analyse et de l'anticipation. Les faits d'observation sont les suivants. Premièrement, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est en hausse extrêmement rapide depuis le début de l'ère industrielle, en ordre de grandeur, 280 millions de particules parties au début du siècle dernier. On est aujourd'hui à 385 ppm, c'est un indicateur de concentration d'équivalent CO2 dans l'atmosphère et ça augmente à peu près de 20 par an. Cette augmentation de la concentration des émissions de gaz à effet de serre, elle provient de l'augmentation de nos émissions. Il n'y a pas de débat scientifique aujourd'hui sur ce point-là. Deuxième phénomène d'observation, un réchauffement moyen de la planète qui est un petit peu inférieur à 1 degré Celsius depuis le début du siècle dernier. Ce réchauffement n'est absolument pas régulier dans le temps. Pour les trois quarts, il apparaît à partir de 1970. Ce réchauffement moyen n'est absolument pas homogène suivant les différents points du globe. Deux repères importants. L'océan étant un formidable régulateur thermique, ça chauffe beaucoup plus vite sur les continents qu'au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique. Et deuxième point, le réchauffement est beaucoup plus rapide à mesure qu'on remonte vers les hautes latitudes. C'est la raison pour laquelle, si on mesure le réchauffement observé, par exemple, dans l'océan Arctique, on est plutôt à des observations de l'ordre de 4 à 4,5 degrés. Ce qui pose évidemment d'autres questions. Troisième observation, une hausse du niveau de la mer. Cette hausse du niveau de la mer n'est également pas du tout uniforme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, puisqu'il y a des tas de phénomènes très complexes de courants marins et de salinisation qui font qu'elle est différente suivant les régions. Mais la principale caractéristique, c'est que la hausse observée du niveau de la mer est plus rapide que toutes les prévisions qui ont jusqu'à présent été faites en la matière. Deux derniers points. Le cycle de l'eau douce est perturbé par le réchauffement. Il est perturbé parce que le réchauffement induit des modifications dans les régimes des précipitations, et il est perturbé parce que le réchauffement, en faisant fondre une partie des couverts neigeux permanents et des glaciers, modifie les mécanismes régulatoires des grands fleuves. Ceci est vrai en Europe avec les fleuves alpins. Ceci prend une proportion absolument dramatique en Asie, où tous les grands fleuves prennent leur source dans la chaîne de l'Himalaya. Dernier point, une observation de modification dans les événements extrêmes qu'il est extrêmement difficile d'apprécier, mais sur lesquels se pose la question de savoir si le réchauffement ne modifie pas les phénomènes de formation des ouragans tropicaux et notamment des régimes des moussons en Asie. Une fois qu'on a fait ces phénomènes d'observation, se pose la question de la compréhension et de l'anticipation de ces mécanismes du réchauffement climatique. Et c'est ici qu'intervient une notion qui est extrêmement importante et sur laquelle je vais revenir, car c'est une question fondamentale pour l'économiste, c'est la question de l'incertitude. Effectivement, on sait que le degré de concentration des gaz à effet de serre et le réchauffement sont deux phénomènes qui sont liés. Les modèles climatiques aujourd'hui ne permettent pas de décrire avec suffisamment de précision et de certitude les mécanismes de cause à effet qui permettraient d'anticiper le climat qu'il fera demain en fonction des comportements d'émissions de gaz à effet de serre que nous avons aujourd'hui. Ce que nous disent néanmoins les climatologues, c'est deux choses. La première, le système climatique est un système qui présente une extraordinaire inertie. Et cette extraordinaire inertie, je voudrais juste l'illustrer par un point. Une tonne de CO2 qui est envoyée dans l'atmosphère va y rester 100 ans. Ça veut dire que le choix que nous faisons aujourd'hui de mettre cette tonne de CO2 dans l'atmosphère ou non va en réalité agir sur le climat, pas du tout que nous connaîtrons nous d'ici la fin de notre vie, mais sur le climat que connaîtront nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. En ce sens, il y a un phénomène considérable de décalage entre les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui et le moment où vont apparaître ces impacts. Et ce phénomène de décalage fait que très souvent, pour un décideur politique ou pour un décideur public, on se dit que le climat, c'est une problématique de long terme, donc on a le temps. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout le raisonnement qu'il faut avoir. Le raisonnement qu'il faut avoir, c'est que c'est effectivement une perturbation de long terme qui dépend de nos choix aujourd'hui. Et plus nous différons ces choix, plus nous risquons de léguer des situations extrêmement difficiles à gérer à nos descendants. Deuxième point, il y a une notion extrêmement importante à intégrer, c'est la notion d'irréversibilité possible. Il y a probablement dans les mécanismes du dérèglement du changement climatique des phénomènes qui sont relativement irréversibles si certains points, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, ce qu'on appelle les tipping points, des points de non-retour, si certains points sont arrivés, c'est très difficile de revenir en arrière. Je vous donne juste un exemple. Si la glace d'eau douce emprisonnée sur le Groenland fond totalement, c'est 7 mètres de hausse du niveau de la mer en plus. Et ces 7 mètres, une fois que le mécanisme de fonte de la glace est enclenché, revenir en arrière est relativement irréversible. Donc voilà, si vous voulez, le paysage que je voulais rappeler. Deuxième point important sur les enjeux. Quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre dans nos sociétés? Je crois que pour ramener véritablement la question de nos modes d'action sur le changement climatique à des choses simples, il faut avoir en tête que les émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'organisation de deux grands systèmes à la base de nos sociétés. Le premier système, et c'est assez connu maintenant, c'est le système énergétique. 80% de l'énergie primaire utilisée dans le système énergétique est d'origine fossile. Dans le cadre des technologies actuelles, chaque fois que nous utilisons une énergie fossile, charbon, gaz ou pétrole, pour produire de l'énergie, nous émettons des gaz à effet de serre. Par conséquent, une stratégie de réduction très forte des émissions de gaz à effet de serre est en ordre de grandeur un consensus assez général chez les climatologues est qu'il faudrait diviser par plus de deux les émissions mondiales d'ici 2050, ça implique de reconstruire le système énergétique à la fois sous l'angle de l'offre, sous l'angle de la demande et sous l'angle de la distribution entre l'offre et la demande. On a, à travers le système énergétique, en ordre de grandeur, à peu près 2/3 des sources d'émissions de gaz à effet de serre. L'autre tiers, c'est la façon dont nos sociétés utilisent le sol pour produire les biens agricoles, pour produire l'alimentation et pour entretenir ou ne pas entretenir la forêt. Ce que j'appelle le système agroforestier. 1/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde aujourd'hui proviennent de la façon dont on produit les biens agricoles et dont on détruit une partie des forêts tropicales pour étendre les mises en valeur agricoles, soit les cultures, soit l'élevage. Retenez juste un point, c'est que, contrairement à une vision un tout petit peu facile propagée par certaines organisations écologistes, la question de la forêt est très directement liée à la question agricole. Certes, on déforeste un petit peu pour aller chercher du bois tropical et du bois d'œuvre, mais à 90%, le premier levier de destruction de la forêt tropicale, c'est la pression alimentaire, la pression sur les modes d'alimentation, le besoin supplémentaire de protéines carnées dans les pays qui se développent très rapidement en Asie, la Chine et l'Inde. C'est la raison pour laquelle je suis absolument persuadé que dans les années qui viennent, la question de l'agriculture et de la forêt va devenir un élément central du débat international sur le changement climatique. Et contrairement à ce qui se passe dans l'énergie, sur l'agriculture et la forêt, les leviers d'action sont beaucoup plus complexes à trouver. Pourquoi ? Pour la première raison, c'est que rien qu'en France, vous avez 600 000 unités de production agricole. Alors, imaginez combien il y a d'unités de production agricole en Inde. Oui. Bon. Et donc, le mode d'intervention pour réorienter ces systèmes agricoles est extrêmement complet. Dernier point sur le constat, c'est la question de l'incertitude. Moi, je suis très frappé que, plus en France que dans d'autres pays, on a tendance à traiter le débat sur le changement climatique sur un mode relativement polémique, sur un mode relativement conflictuel. Il me semble, en écoutant et en essayant de m'informer le plus complètement possible depuis les sciences du climat, que, en réalité, beaucoup de fausses polémiques viennent du fait que la vraie question à traiter, c'est la question de l'incertitude. Je consacre la totalité de mon activité professionnelle et de mes recherches depuis 7 ans sur le changement climatique, mais jamais je pense n'avoir été déclaré publiquement que si nous avions tel niveau de gaz à effet de serre, nous aurions tel type de climat. Je crois que la grosse difficulté pour bien intégrer le changement climatique dans nos actions, c'est de correctement traiter l'incertitude. Et cette incertitude, elle se comprend si on prend 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que les scénarios globaux de changement climatique dans le futur sont extrêmement incertains. Tous les climatologues vous le diront, on ne sait pas comment le système climatique global va réagir à cet énorme choc que nous lui envoyons en accumulant des gaz à effet de serre supplémentaires. Un exemple. Le premier gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau. La teneur en vapeur d'eau dans l'atmosphère varie continuellement. Si vous augmentez le réchauffement climatique, naturellement, les plantes respirent plus et donc on envoie plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Vous avez donc un effet de feedback positif. Le réchauffement initial va accroître la sensibilité du changement climatique au choc initial. Mais si cette vapeur d'eau se transforme en nuage, vous avez alors apparition d'un aérosol dans l'atmosphère et le nuage empêche une partie du rayonnement solaire d'arriver jusqu'à la planète. Les climatologues aujourd'hui ne savent pas expliquer la formation des nuages. Et donc on a une énorme incertitude sur, par exemple, le type de réaction et le type d'effet en chaîne, positif ou négatif, à la suite d'une augmentation initiale de la vapeur d'eau. Deuxième point, pour gérer de façon opérationnelle une adaptation aux impacts du changement climatique, et ça a été tout le sens de la démarche qu'on a eue l'année dernière pour les pouvoirs publics, il faut avoir, pas uniquement, une vision du système climatique global. Il faut savoir quel type d'impact vous avez, par exemple, à Lyon. Et pourquoi est-ce que je situe Lyon ? Parce que Lyon, comme vous le savez tous, c'est à peu près au milieu de la France. Et c'est un peu entre les influences du système méditerranéen et du système tempéré. Les modèles climatiques aujourd'hui savent très difficilement identifier le type d'impact qui va arriver à Lyon. Est-ce que c'est l'influence méditerranéenne qui va l'emporter, ou est-ce que c'est l'influence, au contraire, d'Europe du Nord ? Donc, vous voyez, l'incertitude locale sur l'impact local s'ajoute à l'incertitude sur le scénario climatique global. Troisième grande incertitude, quelles sont les capacités d'adaptation des systèmes économiques et des systèmes sociaux ? Car on a beaucoup discuté sur la façon dont les écosystèmes peuvent s'adapter au changement climatique. Et là, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a commis un extraordinaire livre sur l'histoire du climat, nous donne énormément d'exemples sur l'adaptation, par exemple, de la culture de la vigne, des dates de vendange, des choses comme ça. Donc on a beaucoup travaillé sur les migrations des petits oiseaux. Mais comment saurons-nous adapter nos systèmes économiques, nos systèmes sociaux à ces impacts du changement climatique, à commencer par le système de localisation des personnes et des migrations. Voilà pour le constat. Maintenant, la conduite de l'action. La conduite de l'action face au changement climatique, je crois, doit combiner trois types d'instruments et trois types de politiques. La première, c'est ce qu'on appelle classiquement l'adaptation aux impacts du changement climatique. S'adapter aux impacts du changement climatique se fera pour une très large part de façon spontanée et, par exemple, de nombreux entrepreneurs, comme celui qui est à ma droite, mais il y en a beaucoup d'autres, se sont depuis très longtemps adaptés aux modifications du climat en fonction de la demande, des choses comme ça. Mais la vraie question, c'est là, on est sur des changements de long terme, donc c'est la question du temps. Et je crois que dans un pays comme la France, dès aujourd'hui, se pose la question de comment est-ce qu'on intègre la perspective d'un changement du climat dans les choix d'infrastructures et dans les choix d'aménagement de l'espace. Je donne un exemple pour chacun des deux. Les choix d'infrastructures. Bien évidemment, lorsque vous construisez un pont ou une autoroute ou n'importe quelle grande infrastructure, on intègre des phénomènes de risque climatique. Mais comment est-ce qu'on fait ? On prend les moyennes historiques. Et donc, on adapte les risques associés aux extrêmes climatiques au climat d'hier et pas au climat de demain. Et donc je crois qu'il y a un véritable travail considérable à faire pour intégrer dans tous les paramètres de localisation, de spécificité physique de nos infrastructures, pour intégrer le risque climatique de demain et pas l'histoire du climat telle qu'on la voit dans les séries statistiques passées. Deuxième point, l'occupation de l'espace. Je crois que le changement climatique remet à l'honneur une grande politique publique qui est la politique de l'aménagement des territoires, de l'aménagement des espaces. Car nous voyons bien que si, d'ici la fin de ce siècle, le scénario le plus communément avancé aujourd'hui, c'est que le niveau de la mer va augmenter de 1 mètre, ça pose de réels problèmes pour un grand nombre de zones en littoral. Nous voyons bien que si demain, le choc équivalent à la canicule que nous avons connue en France en 2002 devient un élément récurrent du climat et que la canicule de demain, ce ne sera pas les températures qu'on a connues en 2003, mais celle de 2003 plus 3 ou 5 degrés, ça veut dire qu'il faut construire différemment nos villes, qu'il faut les organiser différemment. Et donc je crois que fondamentalement, la question de l'adaptation au changement climatique aujourd'hui renvoie à des politiques publiques d'aménagement de l'espace, de schémas urbains, de construction d'infrastructures qui doivent de plus en plus intégrer non pas uniquement l'histoire dans l'analyse des risques, mais également l'anticipation de ceux qui peuvent être demain. Deuxième point, une action contre le changement climatique doit immédiatement intégrer l'innovation et la recherche et développement. L'innovation et la recherche et le développement seront une partie de la solution. Je dis bien une partie. Et je voudrais juste mettre en garde contre une vision parfois un peu simpliste qui concerne ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Les techniques de géo-ingénierie sont des techniques qui visent à intervenir sur le fonctionnement du système climatique, soit en empêchant une partie des rayons du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la Terre, par exemple en envoyant de façon artificielle du soufre dans l'atmosphère, par exemple en envoyant des miroirs qui réfléchiraient une partie des rayons solaires avant qu'ils n'arrivent, ou ce sont des techniques qui visent à accroître artificiellement la capacité de stockage du carbone et des gaz à effet de serre sur le sol ou dans l'océan. Ces techniques pourraient contribuer éventuellement à gérer le risque climatique, mais je ne crois pas que face à des grands bouleversements comme celui du changement climatique, la seule dimension technologique puisse être la solution. Ça pourrait être une partie de nos instruments pour éviter des changements trop rapides, mais ça ne sera certainement pas la solution et ça pose beaucoup de questions non résolues aujourd'hui en termes de gouvernance et en termes de qui aurait et à quelles conditions pourrait agir sur le climat de la telle façon. Dernier point, agir contre le changement climatique implique nécessairement des actions préventives de très grande ampleur pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et pour en réalité opérer une transition vers une économie que nous allons appeler ensemble une économie sobre en carbone. C'est quoi une économie sobre en carbone ? C'est une économie dans laquelle, en 2050, on émet dans le monde moins de la moitié des gaz à effet de serre qu'on émettait en 1990. En ordre de grandeur, on émet aujourd'hui à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans chaque année. Ce montant des émissions augmente très rapidement dans les pays émergents et dans quelques pays industrialisés. Il a plutôt tendance à légèrement baisser en Europe. La plupart des climatologues s'accordent pour dire que si on veut limiter l'enclenchement de phénomènes irréversibles, comme par exemple celui de la fonte du Groenland, il faudrait viser un réchauffement moyen qui ne dépasse pas 2 degrés Celsius, et donc il faudrait ramener ces 50 milliards de tonnes à quelque chose qui est de l'ordre de 15 milliards de tonnes. C'est une révolution considérable quand on sait aujourd'hui l'importance du facteur du développement des pays émergents sur les niveaux des émissions. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager cette transition vers l'économie bas carbone? Je vais terminer ce propos par quelques considérations d'économistes, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu réducteur, mais moi j'ai la conviction que on n'intégrera pas véritablement la question du changement climatique dans nos prises de décision tant qu'on n'aura pas incrusté ce que j'appelle la valeur carbone, autrement dit le prix du carbone, dans le fonctionnement de l'économie. Ça veut dire quoi, incorporer le prix du carbone dans le fonctionnement de l'économie? Ça veut dire d'aller rapidement vers une économie dans laquelle chaque émetteur de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse du CO2, mais qu'il s'agisse aussi du méthane ou des autres gaz à effet de serre, paye le prix des émissions qui sont envoyées dans l'atmosphère. Comment est-ce qu'on va mettre en place ce prix? Eh bien, ce prix, évidemment, les économistes ont des tas de solutions à vous proposer. La vérité, c'est que on ne sait pas très bien quel est le bon tarif, parce que le prix qu'il faudrait mettre en place, c'est le coût futur des dommages. Or, le coût futur des dommages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est marqué par une très grande incertitude. Mais si l'incertitude est parfois considérée comme un facteur qui autorise à attendre, moi je considère qu'au contraire, l'incertitude doit être un paramètre qui incite à l'action immédiate, car on est incertain des dommages qu'on peut peut-être surestimer, mais s'il y a incertitude, il est possible qu'on sous-estime les dommages de demain. Donc je pense que la transition vers l'économie sobre carbone implique de mettre en place un prix international du carbone. Où en est-on en la matière? Très rapidement, sur le plan international, une première construction a été mise en place à partir de 1992 lors de la convention de Rio de Janeiro qui a produit une convention internationale sur les changements climatiques, et 1997 a été, avec le protocole de Kyoto, une première tentative. Cette tentative a apporté des résultats très modérés. Pourquoi ? Parce que cette tentative a en réalité consisté à partager le monde en deux grands ensembles et à ne mettre un prix du carbone effectif que sur les pays industrialisés. Et en disant, les pays en voie de développement et les pays émergents paieront dans le futur le prix du carbone. Je pense que c'est la raison de fond qui a limité ce développement international du prix du carbone. En 2011, la dernière conférence sur le climat à Durban s'est terminée par un compromis qui est un compromis extrêmement décevant à court terme, mais qui vise à créer les conditions d'un accord international qui inclut non seulement les pays industrialisés, mais les grands pays émergents, Chine, Inde, Brésil, qui sont devenus, dans la négociation internationale, des pays centraux dans la négociation. En Europe, nous avons créé un outil tout à fait innovant qui est le système européen d'échange des quotas de CO2. Ce système européen, ce qu'on appelle plus communément le marché du carbone. Ce système est un système unique dans lequel les industriels de 27 pays, via un mécanisme de plafonnement et d'échange, doivent désormais payer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce système a fonctionné. Il a permis de très loin les plus grosses réductions dans le système industriel et énergétique européen que toutes les autres politiques énergie-climat qu'on a tentées sur le plan national. Ce système a connu de très grosses difficultés de gouvernance, mais il nous est envié. Il se trouve qu'à deux reprises, j'ai présenté le système européen des quotas de CO2 devant les commissions spécialisées du Sénat américain. Donc ça veut dire que je crois qu'un enjeu très important est de voir comment est-ce qu'on va arriver à redresser ce marché du carbone qui, aujourd'hui, est relativement affaibli par des questions de gouvernance européenne et par également l'affaiblissement général de la gouvernance européenne. Sur le plan français, et je terminerai par là, dans le rapport que j'ai remis à la ministre au nom du comité que j'ai présidé en novembre dernier, nous avons très clairement indiqué que pour la France, 75%, même un peu plus, près de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas l'industrie, c'est pas l'énergie. C'est le transport, c'est l'agriculture, c'est les bâtiments. Ce sont des émissions qui dépendent essentiellement des mesures de politique nationale. Le Grenelle de l'environnement a été un formidable catalyseur de discussions, de débats publics. Mais sur le plan économique, le Grenelle de l'environnement n'a pas débouché sur des instruments de politique publique qui soient finançables à long terme et dans lesquels on intègre l'incitation du prix du carbone. Ma recommandation a donc été qu'on reprenne véritablement dans la réflexion l'idée qu'on pourrait mettre en place un prix du carbone domestique dans les secteurs hors marché du carbone. Alors vous allez me dire, c'est de la folie. Vous voulez charger notre économie un peu plus? Pas du tout. Il y a en Europe un pays qui a mis en place une taxe carbone domestique en 1990 dans toute son économie. Ce pays, c'est la Suède. Aujourd'hui, en Suède, on paye la tonne de CO2 émise lorsqu'on est un ménage ou lorsqu'on est dans le secteur du bâtiment, 120 à peu près, parce qu'il y a un taux de change, c'est à peu près 120 euros la tonne de CO2. Ces valeurs nouvelles du carbone sont ensuite réinjectées dans l'économie. Et si vous regardez les performances macroéconomiques et les performances industrielles de la Suède depuis 1990, à l'intérieur de la zone OCDE, en termes de croissance du PIB et d'emploi, la Suède arrive en deuxième rang, juste après le premier de la classe, qui est la Corée. Donc, il me semble que, en réalité, lorsque on veut projeter une transition vers l'économie sobre en carbone, un instrument incontournable est d'introduire la valeur carbone dans le système économique en tarifant les émissions de gaz à effet de serre. Et cette tarification renvoie à des questions d'arbitrage entre qui paye et qui reçoit. Mais si on recycle correctement cette valeur carbone, nous avons là un élément de croissance et de compétitivité et pas du tout une charge supplémentaire sur l'économie. Voilà, je crois, le propos sur lequel je souhaite conclure puisque je crois avoir épuisé le quota de temps de parole que vous m'avez imparti. Merci de votre attention.
Dans cette même série de communication de l'année 2012, série intitulée par le président de l'année Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », Vous pouvez aussi écouter une communication d'Henri Léridon, démographe, correspondant de l'Académie des sciences sur les perspectives de la population mondiale, Didier Julienne sur les métaux et les terres rares, Pierre Gadonex sur les ressources mondiales en énergie, François Bersani sur l'avenir du secteur minier traditionnel. Toutes ces communications sont retransmises régulièrement par Canal Académie et le plus souvent, les textes peuvent être lus dans leur intégralité sur le site www.asmp.fr.